Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver à l'occasion de cette émission spéciale basée sur le thème de la semaine de Pâques.
À Pâques, les chrétiens se souviennent de la mort du Seigneur Jésus-Christ, crucifié sur la croix, et ils célèbrent sa résurrection.
Ainsi, lors de cette émission spéciale, nous allons aborder de nouveau le sens de ces événements.
La tristesse et la honte, le deuil et la mort sont des réalités auxquelles tous nous devons faire face tôt ou tard.
Et dans ce monde souvent malheureux, qui n'a jamais rêvé d'un avenir meilleur, d'une existence où les larmes ne couleront plus, d'une nouvelle terre où il n'y aura plus de raison de se lamenter, où le mal et la mort auront disparu.
La Bible déclare qu'un tel monde n'est pas un mythe. Il n'est pas illusoire, ni n'apporte un faux espoir. Car la Bible affirme que ce monde auquel beaucoup aspirent deviendra réalité, que Dieu, dans sa bonté, réalisera un jour ce projet merveilleux. La Bible enseigne également que la mort et la résurrection de Jésus-Christ représentent des étapes vitales dans la réalisation de ce plan divin. Car si nous mettons notre foi en Jésus-Christ, crucifié pour nos péchés et ressuscité pour régner, alors nous pouvons nous permettre d'espérer. Dieu nous promet que nous ressusciterons à notre tour et vivrons avec lui pour l'éternité.
Yann, vous avez mentionné la Bible plusieurs fois, affirmant qu'elle annonce cette espérance d'un monde meilleur. Mais pouvez-vous nous citer quelques versets?
Bien sûr, et comme point de départ, nous allons écouter une prophétie trouvée dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 25, versets 6 à 9. Pouvez-vous la lire, s'il vous plaît, Hélène?
Le Seigneur des armées célestes préparera lui-même pour tous les peuples, là, sur cette montagne, un festin de vin vieux et de mets succulents, des mets tout pleins de moelle, arrosés de vin vieux et dûment clarifiés. Il déchirera là, sur cette montagne, le voile de tristesse qui couvre tous les peuples, la couverture recouvrant toutes les nations. Il fera disparaître la mort à tout jamais. Et de tous les visages, le Seigneur, l'Éternel, effacera les larmes. Et sur toute la terre, il fera disparaître l'opprobre pesant sur son peuple. L'Éternel a parlé, et l'on dira en ce jour-là, « Voyez, c'est notre Dieu en qui nous espérions, et il nous a délivrés. Oui, c'est en l'Éternel que nous avons placé notre espérance. » Maintenant, jubilons. Et réjouissons-nous, puisqu'il nous a sauvés.
Avez-vous remarqué, Hélène, que le prophète annonce que la tristesse, la honte et la mort disparaîtront?
Oui, et ces vérités reflètent les aspirations que nous avons évoquées en introduisant cette discussion. Car voilà que le prophète annonce que Dieu accomplira ces choses sur une montagne. Mais qu'est-ce que cela signifie? Et de quelle montagne s'agit-il?
Il s'agit de la montagne sur laquelle la ville de Jérusalem a été construite. C'est sur cette montagne, en dehors de la ville, que Jésus fut crucifié, puis enseveli. Et c'est sur cette même montagne que 3 jours plus tard, Jésus ressuscita. Tout au long de cette émission, je voudrais démontrer comment les apôtres, à travers les écrits du Nouveau Testament, parle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, en termes qui reflètent bien cette prophétie lue, et qui prouve que ces événements en représentent l'accomplissement.
Le prophète parle tout d'abord d'un repas, d'un festin somptueux et abondant. Quel rapport se trouve-t-il là avec la mort de Jésus?
Il s'agit d'une illustration assez riche qui nous apprend des leçons importantes sur le caractère de Dieu.
Quelle leçon exactement?
Ce festin somptueux est une image de la générosité, de la grâce et de la miséricorde de Dieu. car l'Éternel désire entretenir une amitié, une relation merveilleuse avec tout homme, toute femme. De plus, autrefois en Israël, souvent un repas était organisé pour marquer la réconciliation entre plusieurs individus ou familles. Le repas était alors la preuve qu'il y avait eu pardon. Il était l'occasion de renouer des relations sur de bonnes bases. Cette notion d'un repas de réconciliation est liée avec le verset qui annonce que Dieu fera disparaître l'opprobre ou la honte de son peuple.
Pouvez-vous nous éclairer davantage sur ce point?
Tout homme et toute femme sont coupables de péché, c'est-à-dire de se conduire de façon ignoble devant Dieu et devant les autres. Or, le péché est à l'origine de la rupture de relation entre Dieu et les hommes, car le péché entraîne à sa suite la honte, la culpabilité, la condamnation et le jugement. Cependant, Dieu, dans sa bonté et sa grâce infinie, a voulu réconcilier les hommes à lui. Mais ce projet nécessitait le sacrifice de Jésus sur la croix. Car Jésus, sur la croix, a subi le châtiment de Dieu à notre place, en prenant sur lui nos péchés. Voilà la raison pour laquelle Dieu peut, dès à présent, nous pardonner et nous offrir un nouveau départ dans la vie.
Et à partir de quel texte du Nouveau Testament ces vérités s'appuient-elles?
Il y en a beaucoup, mais celui qui évoque clairement cette idée de réconciliation obtenue grâce à l'amour de Jésus se trouve en 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 21. Pourriez-vous le lire, Hélène, s'il vous plaît?
Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu.
Le prophète Ésaïe a compris que l'Éternel allait accomplir une œuvre de pardon et de réconciliation. Les apôtres, quant à eux, furent témoins de cette œuvre, réalisée en la mort de Jésus-Christ sur la croix. Et tout comme eux, nous vous encourageons à venir à Dieu, à devenir son ami, en mettant votre foi en Jésus-Christ.
Nous avons appris que Dieu, en Jésus-Christ, peut enlever la honte, la culpabilité et la condamnation qui pèse sur chacun d'entre nous, pour nous offrir à la place son pardon et sa réconciliation. Cependant, le prophète Ésaïe annonce aussi que Dieu fera disparaître la mort et qu'il effacera à jamais les larmes de son peuple.
Oui, en lisant le Nouveau Testament, nous découvrons que Dieu a réalisé un tel miracle grâce à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Il serait bon d'ailleurs de lire deux textes bibliques semblant chacun citer directement la prophétie d'Ésaïe. Le premier se trouve en 1 Corinthiens chapitre 15, versets 54 à 57.
Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Loué soit Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ.
Et le deuxième texte se trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, versets 16 et 17.
Ils ne connaîtront plus ni la faim, ni la soif. Ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil, ni d'aucune chaleur brûlante. Car l'agneau, qui est au milieu du trône, prendra soin d'eux, comme un berger. Il les conduira vers les sources d'eau vive, et Dieu lui-même essuiera toutes larmes de leurs yeux.
Voilà donc deux textes du Nouveau Testament qui confirment la prophétie d'Ésaïe. Dieu un jour fera disparaître la mort et les larmes n'existeront plus.
Mais Yann, la mort et les larmes demeurent une réalité tout aussi présente dans notre monde qu'elles ne l'étaient à l'époque d'Ésaïe.
Vous avez raison, Hélène, et c'est pour cette raison que nous devons bien faire la distinction entre ce que Dieu donne à son peuple aujourd'hui, dans cet âge présent, et ce qu'il tient en réserve pour lui à l'avenir, dans l'âge éternel. Dès maintenant, nous pouvons nous réconcilier avec Dieu, recevoir son pardon et entretenir une relation personnelle avec lui. Et à tous ceux qui prennent ce nouveau départ avec lui, il promet de les ressusciter à la vie éternelle. Cette résurrection aura lieu le jour où Jésus reviendra dans sa gloire. C'est à ce moment-là qu'il n'y aura plus de raison de pleurer et que la mort disparaîtra pour toujours.
Mais comment être certain que nous ressusciterons ainsi pour jouir de cette vie où les larmes ne couleront plus?
D'abord parce que Jésus-Christ lui-même est ressuscité d'entre les morts. Et ensuite, parce que tout au long de la Bible, nous constatons que Dieu tient ses promesses.
Et le prophète Ésaïe termine avec la pensée que nous pouvons mettre notre espérance en l'Éternel, que nous avons raison d'espérer en lui, que nous devons nous réjouir de ce qu'il a déjà fait pour nous et aussi de ce qu'il accomplira à notre égard.
Et cette espérance merveilleuse existe grâce à ce que Jésus-Christ a accompli sur cette montagne en dehors de la ville de Jérusalem, il y a tant d'années de cela. C'est grâce à sa mort sur la croix, grâce à sa résurrection, que tous les maux et les malheurs que nous connaissons aujourd'hui disparaîtront un jour pour céder la place à la joie, la paix et une parfaite connaissance du Dieu éternel.
C'est ainsi que notre émission se termine. Nous espérons vous retrouver bientôt. En attendant, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.